À la dernière réunion de prière, j'aime bien de lire quelques versets pour nous encourager, surtout lorsque nous devons commencer à prier, de nous encourager parce que notre Dieu est grand. Hein? Et donc, j'avais lu le psaume 29 et je vous invite à le lire avec moi aujourd'hui. Donc, psaume 29. Ici, j'ai comme titre « La toute-puissance de Dieu ». Effectivement, le thème de ce psaume, c'est la puissance et la suprématie de Dieu sur tout. Donc, Dieu règne sur tout. Et, conséquence de tout cela, eh bien, il faut que tout le monde, tous, rendent gloire à l'Éternel, gloire et honneur. Alors, lisons le psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle débouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire! L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Alors, donc David qui parle de la puissance et de la suprématie de Dieu sur tout. Sur les êtres célestes, les fils de Dieu. Sur les forces de la nature, et là il utilise une image qui peut-être ne nous est pas familière, mais qui certainement pour les gens du Moyen-Orient doit être très évocatrice. Ce sont les cèdres du Liban qui sont des arbres extrêmement solides, costauds. Et pour Dieu, c'est des bois d'allumettes. Hein? Donc, Dieu a la suprématie sur les forces de la nature. Il a la suprématie aussi sur la vie, c'est lui qui donne la vie, qui permet la vie. On nous parle d'une biche qui donne naissance. Hein? Il a aussi la suprématie sur son peuple. Et sur son peuple, il donne la force et il le bénit. Et il le rend heureux. Et là, nous pouvons déjà faire une petite remarque, c'est que nous pouvons nous réjouir parce que nous avons été greffés au peuple de Dieu. Donc, la force, la bénédiction que Dieu a donnée à son peuple eh bien, il nous la donne aussi à nous qui avons été greffés à lui, à son peuple. Alors, dans Romains, au chapitre 1, au verset 20, Paul nous dit que nous sommes inexcusables. Pourquoi nous sommes inexcusables? Eh bien, parce que, je vais le lire. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Donc ici, Paul nous invite à ouvrir nos yeux, à regarder, à contempler l'ouvrage de Dieu et d'admirer, et à travers cet ouvrage, à travers tout ce que Dieu a fait, toutes ces merveilles, toutes ces beautés, eh bien, nous pouvons connaître et voir Dieu. Donc, nous sommes inexcusables si nous disons « il n'y a pas de Dieu ». Donc, en admirant son œuvre, nous pouvons connaître Dieu, dit Paul. Et donc, il parle de la vue, ici. Donc, on doit se servir de la vue, de regarder, de notre regard. Et dans le psaume 30, par contre, David parle du verset 3 jusqu'au verset 9, il parle de la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Alors, à part quelques privilégiés comme Moïse, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Si, d'un côté, Paul nous invite à regarder, à utiliser notre vue, notre regard, pour connaître et voir Dieu à travers sa création, David, lui, nous invite à écouter, à nous servir donc de un autre sens, notre ouïe. Écouter quoi? Eh bien, tous les bruits de la nature nous rappellent la voix de Dieu, la voix du Seigneur. Le tonnerre, par exemple. Souvent, la voix de Dieu est comparée au tonnerre. Il utilise cet exemple du craquement des cèdres, qui sont pourtant des arbres très solides. Hein, nous, ça nous dit pas grand-chose, mais on imagine un cèdre qui craque, le bruit que ça doit faire. Eh bien, c'est la voix de Dieu aussi. On entend la voix de Dieu aussi dans les tremblements de terre. Les cris de la biche qui met au monde son petit. Il y a la voix de Dieu aussi, la voix du Seigneur dedans. Le grondement de l'eau d'un fleuve, une cascade. Dans tout cela, eh bien, c'est la voix de Dieu, la voix du Seigneur que nous entendons. Et si donc, nous pouvons connaître et voir Dieu à travers, comme Paul dit, en regardant, eh bien, nous pouvons entendre la voix du Seigneur à travers tout ce que nous entendons. Dans ce psaume, David nous rappelle deux choses. D'abord, c'est le thème du psaume, sa puissance. Mais surtout, sa suprématie sur tout. Sur tout. Il est important, surtout à l'époque où on se dirigeait facilement vers les idoles et vers les faux dieux, il était vraiment important de rappeler constamment qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est lui qui dirige tout. Et tout le reste lui est soumis. Et aussi, une deuxième chose, c'est que il n'a besoin que de sa voix pour que les choses apparaissent, pour que les choses se fassent. Je disais donc que la voix du Seigneur est souvent comparée au tonnerre, au bruit du tonnerre, en tout cas à quelque chose de puissant, de majestueux, parfois aussi un peu d'effrayant. Hein. Il est écrit que Dieu est redoutable, il est redoutable de tomber dans les mains du Dieu vivant. Alors, on va lire deux versets où on parle de cette puissance, de la voix de Dieu et de cette puissance. Alors, je vois 2A, 2B. Voilà, donc je dois passer de là à là. Nous pouvons lire dans le psaume 93. Donc, on n'est pas loin. Au verset 4, nous lisons. Non, on peut commencer au verset 3, pardon. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes puissances des eaux, puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. La voix du Seigneur est plus puissante que le bruit, le grondement des eaux. Nous pouvons lire aussi dans Joël au chapitre 2. Moi j'ai triché, j'ai mis le numéro de la page. Je m'en souviens plus. Joël, chapitre 2, verset 11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Encore ici un verset qui parle de la voix du Seigneur. Alors c'est vrai que lorsqu'on pense à la voix du Seigneur, on n'imagine pas une voix fluette, on imagine toujours une voix puissante, majestueuse, et c'est vrai. Mais le Seigneur sait aussi utiliser une voix douce, suave, subtile, lorsqu'il le faut. Un exemple, c'est quand Élie, qui est poursuivi par Jézabel, la femme d'Akab, Jézabel qui veut le faire mourir, Élie se réfugie dans une caverne et il est découragé, désespéré, au point de demander même la mort. Et Dieu va utiliser quatre voix différentes pour parler à Élie. Il va d'abord utiliser la voix d'un vent fort et violent. Alors, parfois nous avons besoin que Dieu déclenche peut-être une petite tempête dans notre vie pour un peu nous réveiller, parce que nous nous sommes peut-être un peu trop nous avons un peu trop confiance, et peut-être veut-il mettre notre foi à l'épreuve. Alors, la voix du Seigneur peut parfois prendre la forme d'une voix forte, d'un vent fort et violent. Ensuite, la voix du Seigneur va prendre la forme d'un tremblement de terre, le son d'un tremblement de terre. Alors, je pense que parfois, nous avons besoin d'être secoués, parce que, ben voilà, on s'installe confortablement. J'ai remarqué, par exemple, dans les magasins de meubles, j'ai remarqué que les divans sont de plus en plus bas. Et alors, quand vous êtes assis dedans, pour en sortir, heureusement qu'on a une télécommande, hein. Vous imaginez, avant, on n'avait pas de télécommande, il fallait se lever à chaque fois, baisser le ton, ou bien changer de chaîne. Nous sommes installés dans un confort, et parfois Dieu parfois peut nous secouer, hein. Nous avons parfois besoin d'être un peu secoués. On parle aussi du feu. Le feu fait du bruit, bien sûr. L'incendie, ça fait un bruit aussi, hein. Ce feu, ça peut nous faire penser que nous avons besoin aussi, parfois, de ranimer notre flamme. Au début, et même pendant une période, certaines périodes de notre vie, nous sommes là, tout feu, tout flamme, mais à d'autres moments, nous avons tendance à nous éteindre. Et la voix du Seigneur est comme un feu qui ranime cette flamme. Mais à la fin, nous lisons que Dieu va utiliser une autre voix, un murmure doux et léger. Donc c'est la preuve que Dieu n'a pas seulement une voix puissante, autoritaire, sévère, mais qu'il peut aussi s'adresser à nous et nous parler avec une voix douce et légère. Et c'est cette voix qu'Élie avait besoin d'entendre à ce moment-là. Il est complètement découragé, déprimé. Il a besoin d'être consolé, encouragé, rassuré. La voix du Seigneur peut parfois être sévère. La voix du Seigneur, parfois, elle peut nous corriger, hein? Mais elle sait aussi, la voix du Seigneur sait aussi prendre la manière de nous encourager et de nous rassurer et de nous consoler. Mais toujours, toujours, quel que soit, même si Dieu est en colère contre nous, même si Dieu a sa voix sévère, eh bien, Dieu ne manque jamais de compassion. Il est toujours plein de compassion et toujours prêt à nous pardonner et à nous consoler. Peut-être certains d'entre vous n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Et je pense que ce matin, Dieu nous parle. Et si vous ne l'avez jamais entendu, eh bien, de sa voix la plus douce, Dieu veut te dire qu'il aimerait tant passer l'éternité avec toi. Cependant, il ne peut t'accueillir dans son royaume à cause de ton péché. Mais alors, on va répondre, mais alors, quoi? C'est fichu, c'est impossible. Pourquoi m'avoir fait miroiter une chose formidable alors que c'est impossible à cause de mon péché? Mais Dieu peut répondre, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour que tu sois avec lui dans son royaume, Dieu a dû donner son Fils unique, Jésus, mourir sur une croix pour prendre ton péché sur lui. Dieu est mort, Jésus est mort sur cette croix, nous l'avons rappelé tout à l'heure, afin de prendre notre péché sur lui, afin de que nous puissions nous présenter devant Dieu justifiés. Alors aujourd'hui, si tu te repens de ton péché, si tu te détournes de tes mauvaises voies, mais toi aussi, tu pourras entrer dans son royaume. Alors, tout ça, c'est bien beau. C'est vrai que Jacques dit souvent que le message de l'Évangile, c'est un beau message. Et qui refuserait la vie éternelle, hein? Si vous êtes en train de vous noyer et que je vous jette une bouée de sauvetage, mais qui ne va pas l'attraper? Mais si ça prêt pour me rendre la bouée et dire merci, hein, au revoir, bah, voilà, ça me rappelle les dix lépreux, sur les 10 lépreux qui avaient été guéris par Jésus, il y en a un seul qui a remercié Dieu. Alors, donc c'est vrai que c'est un beau message. Et on dit, il ne faut rien faire, c'est gratuit. Le Seigneur a fait tout sur la croix, tout est accompli. Tout a été accompli sur la croix. Il ne faut plus rien faire. Mais ce n'est pas vraiment tout à fait la vérité, dans le sens que lorsque on se repent et on s'engage à suivre Jésus, à lui obéir. Et voilà un mot qu'on n'aime pas aujourd'hui entendre, c'est le mot obéissance. Obéissance. On va lire deux versets sur l'obéissance. Matthieu 7. au verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors c'est vrai que le salut est gratuit, mais après il faut faire un choix, le choix de suivre et d'obéir le Seigneur. Le deuxième verset que j'aimerais lire avec vous, c'est dans Jacques. Jacques au chapitre 1. Au verset 23. Donc Jacques au chapitre 1, au verset 23, nous dit ceci. Non, on peut commencer par le verset 22, pardon. Mettez la parole, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Et ici donne un exemple, une illustration. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Et c'est vrai que un miroir, quelle est l'utilité d'un miroir? L'utilité d'un miroir, ce n'est pas de se contempler, de s'admirer, de se regarder, oh comme je suis beau, hein. C'est l'utilité du miroir, c'est pas ça. L'utilité du miroir, pourquoi a-t-on créé cet objet? C'est un objet utile parce que lorsqu'on se regarde dans le miroir, eh bien, c'est pour voir s'il y a rien qui cloche. Hein? Si j'ai un cheveu en l'air comme ça, et si je me regarde dans la glace et je vois ma touffe de cheveux en l'air, puis que je m'en vais, le miroir n'a servi à rien. Le miroir sert à nous corriger. Et en fait, le miroir, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour nous un miroir dans lequel c'est un miroir qui ne nous donne pas toujours une image flatteuse de nous, hein, mais qui nous dit la vérité, qui nous dit tel que nous sommes, qui nous décrit tel que nous sommes, et dans le but non pas de nous offenser, mais dans le but de nous corriger. Je vais conclure maintenant. Lorsque j'étais moins jeune, il y a pas des vieux ici, hein, il y a des jeunes, des moins jeunes. Je me souviens bien des vinyles, peut-être certains d'entre vous se souviennent encore des vinyles, les disques vinyles. Et il y avait il y avait diverses sociétés qui produisaient des disques vinyles. Et il y avait ce qu'on appelle un label, donc une société. Il y avait un label qui s'appelait La Voix de mon Maître. La Voix de mon Maître. La Voix de son Maître. La Voix de son Maître, pardon. Et cette image, je ne sais pas pourquoi, j'étais enfant et elle me fascinait. Il y avait un phonographe, vous voyez le vieux phonographe comme ça, et avec il y avait un petit chien, un Jack Russell, j'ai vérifié, c'est un Jack Russell. Et il écoute. Il écoute. Et moi, j'étais enfant et je regardais cette image et je pensais que le chien écoutait vraiment la voix de son maître. Alors, dans ce monde, nous pouvons écouter deux voix. Je sais que dans les partitions, il n'y a pas que deux voix, hein, Edwige. Il y a trois voix et même quatre avec la basse. Mais dans notre vie, il y a deux voix. Il y a deux voix. Il y a la voix du prince de ce monde, le maître de ce monde perverti, la voix de celui qui te veut du mal, qui se réjouit de te voir perdu. Et puis, il y a une autre voix, il y a la voix de Jésus, celui qui veut te bénir, et qui veut te faire du bien, et qui veut passer l'éternité avec toi. Alors, laquelle de ces deux voix allez-vous écouter? Moi, j'ai choisi de ne plus écouter la voix de mon ancien maître, mais d'écouter la voix de mon nouveau maître qui est Jésus-Christ. Amen. Je vais terminer par une petite prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes en admiration devant ta puissance qui est décrite dans ce psaume 29, qui est décrite d'une manière si poétique par David. Seigneur, merci parce que c'est vrai que parfois tu es sévère avec nous, parfois tu es autoritaire, parfois tu nous corriges et cela ne nous réjouit certainement pas. Mais tu le fais parce que tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier parce que tu sais aussi avoir utilisé une voix douce, un murmure doux et léger afin de nous encourager dans les moments difficiles, afin de nous consoler, afin de nous rassurer. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Seigneur, je veux surtout te remercier pour ta parole qui pour nous est un miroir. C'est un miroir, bien sûr, où nous n'aimons pas trop parfois nous regarder, mais nous en avons besoin. Nous en avons besoin afin de pouvoir nous corriger, pour pouvoir être de plus en plus ressembler à ton image. Amen.